14h17, on est de retour dans Trudeau Landry, évidemment. Depuis 2 ans, on parle des dommages collatéraux, des effets négatifs de la pandémie. Il y a les effets directs sur le système de santé, les gens qui sont atteints de la COVID, le délestage. Mais il y a des effets qu'on perçoit peut-être moins, mais qui sont pas moins préoccupants et présents. Il y avait une conférence de presse ce matin qui est organisée par une organisation qui est Pignon sur Québec, qui s'appelle l'OQPAC, l'Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer. Ils voulaient sensibiliser la population au fait qu'il y a de plus en plus de demandes d'aide qui sont faites auprès de l'organisation. Notre collègue Félix-Antoine Audet qui est en studio pour en jaser. Salut Félix-Antoine.
Salut.
Ça jasait beaucoup de foot pendant la pause. Vous auriez pu faire un podcast, Jérôme, toi
c'est
et
un fan
Alex.
Des Rams, là.
Mais oui.
Oui.
La vie est belle, en ce moment.
La vie est belle.
On va faire Cooper Cup pendant la pause, là.
Ouais. C'est ça. Nico puis moi, on est un peu béat. OK, donc on a parlé de l'augmentation de demandes d'aide auprès de l'organisme.
Félix, oui, exactement, parce que le délestage, ça frappe plusieurs personnes qui ont été atteintes du cancer, qui le sont encore un peu, qui sont surtout au niveau des rendez-vous de suivi, l'après cancer, parce que c'est quand même important de suivre. Est-ce que mon système immunitaire va bien? Est-ce que la santé tient le coup? Est-ce qu'il y a encore des résidus de cancer? Là? C'est quelque chose de très important dans ton parcours, les rendez-vous de suivi. Surtout pour les premières années où est-ce que les risques de récidive sont élevés. Et cet organisme-là aide beaucoup, bon, la transition, reprendre le contrôle de ta vie après avoir eu ton diagnostic de cancer, aide pendant, mais aide aussi beaucoup après. Et ce qu'on mentionne, c'est qu'en ce moment, plus que jamais, oui, depuis le début de la pandémie, il y a eu une hausse de la demande, mais plus que jamais, on sent qu'il y a une détresse à cause du délestage. Beaucoup de gens qui ont besoin d'aide en ce moment et qui se font dire « Ben, je suis désolé, mais tes rendez-vous de suivi, malheureusement, mais on repousse ça de 3, 4, 5, 6 mois. » Et ça peut être très anxiogène. Là. Pour l'avoir vécu personnellement, là, j'ai passé les 3 premiers mois de la pandémie à ne pas ouvrir la porte de mon appartement parce que je ne savais pas où était mon état au niveau de mon système immunitaire.
Tu as juste rappelé, Félix, pour les gens qui te connaissent un peu moins, tu as eu un cancer il n'y a pas si longtemps que ça.
Il y a 4 ans, j'ai eu un cancer. Là, ça s'est terminé vers il y a à peu près 3 ans. Mais c'est ça, j'avais mes rendez-vous de suivi. Ouais. Puis quand la pandémie a frappé en mars 2020, on a repoussé mes rendez-vous de suivi. J'étais dû à peu près à ce moment-là. On a repoussé. Ça a été 3 ou 4 mois plus tard, vers la fin de l'été. Mais avant ça, je ne sortais pas de mon appartement. Je savais pas. Est-ce que je vais mourir demain matin en sortant? On n'était pas au courant. Évidemment, on avait moins d'informations sur la pandémie. Si le système immunitaire est mort. Mais c'est le cas pour encore beaucoup
mais
de personnes.
Mais ça, là, sérieusement, Félix, ça doit être un mélange d'anxiété, de peur, de frustration, ça, quand tu vis ça.
Ah, 100%. T'as absolument aucune idée de ce qui peut t'arriver. Puis tu peux même pas avoir la confirmation. Mon médecin me l'a dit finalement à la fin de l'été. Ça va, t'es correct en ce moment. Fais-toi-en pas. Mais il y a 3 mois où tu ne sais pas, 3 mois que tu aurais pu sauver s'il n'y avait pas eu de délestage.
Je viens de faire une recherche rapide, puis le 30 mars 2020, je n'étais pas encore avec le 93, mais c'était dans la première vague. J'avais fait une entrevue avec notre collègue Kathleen Frenette du Journal de Québec, qui, elle, venait de combattre un cancer du sein. Puis déjà à ce moment-là, elle, c'est ce qu'elle disait. T'sais, elle disait, j'enlève rien aux gens qui sont dans le réseau, qui ont des maladies, mais moi, je vis avec cette crainte-là, ce stress-là d'avoir de rendez-vous en rendez-vous de possibles mauvaises nouvelles ou, évidemment, idéalement être rassuré, mais là, c'était le néant. On s'entend que 2 ans plus tard, il y en a pour qui ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Là.
Non, c'est vraiment une source d'anxiété, ça, c'est sûr. Et justement, on écoute des membres de l'organisation qui parlent de la hausse de la demande.
Le téléphone sonnait, puis il y a besoin d'aide, là. À un moment donné, coudonc! On s'est mis à creuser. Pourquoi vous appelez là? C'est parce que mon médecin m'a dit que c'était pas avant 3, 4, 5, 6 mois. Mon infirmière m'a dit que c'est pas avant plusieurs mois que je vais pouvoir. Mais là, je fais quoi? Là? Je vais continuer de me battre. Je vais prendre soin de moi. C'est comme ça que les gens arrivent chez nous. Là.
Au-delà de la sensibilisation à cette réalité-là, Félix, est-ce qu'il y avait des demandes particulières? Qu'est-ce que ces gens-là voudraient pour qu'on puisse davantage les aider, les outils, par exemple?
Ben, c'est ça, là. On parlait de hausse spectaculaire de près de 50% du nombre de demandes qu'ils ont dans la dernière année. Et ce qu'on dit, c'est que on est heureux d'essayer d'aider les gens, mais en ce moment, les financements publics n'augmentent pas. On a toujours le même financement qu'on avait. Les dons n'augmentent pas particulièrement. On a un soutien qu'on aime bien, mais avec la demande qui augmente, faut un petit peu plus d'aide. Donc, on envoyait un petit cri à l'aide aux habitants de la région de Québec, aux entreprises de la région de Québec, quand c'est possible, si vous pouvez, de peut-être faire un petit don. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voudrait faire, je vais demander qu'est-ce que ce serait l'idéal. Si on n'avait pas de problème de budget, là, avec la demande actuelle, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Voici ce qu'on va me répondre.
En fait, il faudrait quasiment doubler notre effectif actuel. Donc, si on offre 2 cours de sophro par semaine, il faudrait probablement monter à 4 pour garder le nombre de participants dans ces cours dans un nombre acceptable pour permettre que les membres en bénéficient pleinement. Au niveau de les rencontres individuelles, on embauche un deuxième intervenant. Mais il faut s'assurer d'être capable de financer cet intervenant-là pour les années à venir. Donc, le financement qu'on a du PSA qui n'est pas suffisant pour répondre à la demande des services qu'on offre présentement. Donc, il faut maintenir et augmenter ce financement-là pour maintenir le niveau de service et éventuellement l'augmenter.
OK. Bon, on les félicite pour leur travail. Puis bonne chance à toutes celles et ceux qui vivent dans ces insécurités-là. Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Un plaisir.
Juste avant d'aller à la pause, je fais un lien avec la santé et l'état de notre réseau. Dimanche, François Legault a présenté la candidate de la Coalition Avenir Québec pour la parcelle dans Marie-Victorin, Shirley Dorismont, qui est une ancienne infirmière syndicaliste pour la FIQ, puis a été déjà très sévère envers le gouvernement, ça a été dit. Mais là, le Devoir, dans les dernières minutes, a mis la main sur un élément de plus. En mai 2021, il y avait un débat virtuel organisé par l'Institut de santé et société de l'Université du Québec à Montréal. Elle était là comme panéliste, et elle a ramassé le gouvernement sur la gestion de la première vague dans les CHSLD. Elle a dit, si on avait fourni une protection adéquate depuis le début, des N95, des gants, des uniformes, et ça dans tous les secteurs, je crois sincèrement qu'on aurait évité tous ces décès massifs en CHSLD. Elle a dit, le gouvernement a fait le choix de remettre l'équipement aux hôpitaux en premier lieu et on a laissé pour compte les CHSLD. Ouf, c'est comme une autre couche qui s'ajoute, là. Et là, je sais que les oppositions se gargarisent de ça.
Non, mais gars, bravo. Au lieu de chialer, critiquer, elle a décidé de s'impliquer et mettre sa face sur une pancarte. Bravo.
Ah non, mais... Bravo. Oui, mais pour avoir écouté le point de presse puis d'autres entrevues qu'elle a données, déjà, les possibles incohérences sur ce qu'elle a dit depuis les derniers mois, pas il y a 10 ans, là, dans les derniers mois, j'ai trouvé que les réponses n'étaient pas... C'était pas bien affûtées.
En fait, c'est un job de syndicaliste. Du mou. C'est un peu ça, le job d'un syndicaliste, c'est de chialer contre...
Sauf que là, t'as un gouvernement qui se défend, qui repousse une enquête publique, puis là, elle, sa candidate dans Marie-Victorin, s'en va dire ça. J'ai l'impression que ça va beaucoup teinter la prochaine campagne électorale.
Elle reste plus pertinente qu'Anne Cazabonne, à mon avis, mon humble avis.
Et Martine Ouellet.
Ah, ben ça, ouais.
Qui se présente aussi dans la
partielle. Mais mon chien serait plus pertinent qu'Anne Cazabonne.
Ben là, écoute, Anne Cazabonne a bien le droit de se présenter, mais c'est pas... Ah,
Albert Leberger aussi?
C'est pas préféré.
Oui, Albert, non, ouais. Il n'a pas le droit. Non. Techniquement, il n'a pas le droit, je pense pas.
Il n'y a pas une adresse de résident.
Je sais pas. Il y a déjà eu des maires chiens, mais je pense pas qu'il y ait déjà eu des candidats.
Non, je pense pas.
OK, 14h25, on va faire une pause dans Trudeau-Landry, on revient.